Eh bien oui, cannabis, que changerait la légalisation? Malgré des politiques qui comptent parmi les plus répressives du continent, la France figure dans le trio de tête des pays européens qui consomment le plus de cannabis. Entre des personnes fragiles mal accompagnées, des dépenses publiques inutiles et un développement constant du crime organisé, un regard lucide sur le système de prohibition français oblige à en constater l'échec. C'est le sens de la dernière note publiée la semaine dernière par le Conseil d'analyse économique, dont les auteurs appellent le gouvernement à légaliser la pratique dite récréative du cannabis pour mettre un terme à des décennies de politiques publiques contre-productives. Que changerait la légalisation du cannabis en France? Pour en discuter, je suis en compagnie de Jean-Pierre Coutron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, addictologue et porte-parole de la Fédération Addiction. Lorsqu'on essaye de comprendre un peu comment fonctionne le cannabis sur le plan social, on est frappé par des études qui sont agitées de part et d'autre et qui expliquent que pour les uns, il y a une parfaite innocuité du cannabis. Pour les autres, il y a au contraire une substance profondément nocive. Et donc, vous êtes là, Jean-Pierre Coutron, pour tenter de nous permettre d'y voir un peu plus clair sur cette question. Qu'en pensez-vous?
Alors, je sais pas si je vais vous aider à voir plus clair parce que on se connaît un peu. Ça fait une dizaine d'années. Moi, j'ai été président d'une grande fédération. Ce débat-là, je le connais depuis 30 ans puisque je suis dans le secteur depuis 30 ans. Et c'est très compliqué d'y répondre. Je pense que on va faire simple. Le cannabis, c'est une substance psychoactive. Donc, il a des effets qui sont loin d'être neutres. Ces effets, selon la façon dont on les regarde, on va pouvoir en sélectionner la partie la plus dangereuse. C'est les fameux travaux sur le lien avec la schizophrénie, mais là tout de suite on ramène en disant mais attention, c'est un public particulier, une précocité de consommation, une intensité de consommation, donc du coup certains vont dire je dédouane le cannabis. On peut regarder d'autres choses. Moi, j'ai longtemps travaillé à Mantes-la-Jolie, dans ces fameux quartiers dont on parlera, j'espère, parce que l'économie y rejoint d'autres vulnérabilités sociales, culturelles et autres. Là, j'avais des gamins qui consommaient du cannabis, voilà, comme on dit, fin des années collège, début des années lycée. Sauf que à Mantes-la-Jolie, quand on consomme du cannabis et qu'on est en difficulté scolaire, on est très vite réorienté vers un CAP qu'on ne va pas choisir. Et là, c'est pas forcément des conséquences médicales, mais les conséquences sociales seront lourdes parce qu'on a raté un trimestre, on est mis sur une voie qui n'est pas forcément celle que l'on aurait choisie professionnellement, parce qu'effectivement le cannabis n'est pas un produit qui rend très performant scolairement, même si il peut donner l'impression que le cours de maths passe plus vite, que le cours de français est moins ennuyeux. Un troisième paramètre qu'on peut avoir, c'est le fait que ces années en France où on prend le cannabis, c'est-à-dire ces années du début de l'adolescence et du début de la vie adulte, sont des années où on doit finir de développer des compétences psychosociales. On doit commencer à apprendre à gérer son stress, à rencontrer le sexe opposé ou le sexe amoureux. On doit apprendre à affirmer son point de vue. Et le cannabis vient parfois comme un filtre. Alors, tout un tas de collègues que je connais, tout un tas de militants du cannabis qui n'ont pas eu ces problèmes disent « on va pas nous empêcher notre consommation pour ça ». Mais je reçois encore au quotidien un certain nombre de familles et de jeunes pour lesquels ça, c'est-à-dire remplacer le développement de compétences psychosociales par la consommation d'un produit, va être très pénalisant. Voilà. Alors, pour résumer, c'est pas de l'eau. Donc ça a des effets qu'il faut apprendre à gérer. Là où je vous rejoins, c'est que le système actuel a fait les preuves d'un échec absolu pour répondre à ce problème-là.
Mais alors, quelle est votre religion? Parce que vous vous êtes fait nécessairement une religion. Que dire par exemple à ses enfants si on découvre que ceux-ci fument du cannabis? Ça, c'est peut-être une question différente, mais une question qui se pose et qui permet d'évaluer la nocivité, selon vous, l'absence de nocivité de cette substance.
Alors, très, très clairement, je pense qu'il faut ne pas hésiter à dire à des enfants qu'il ne faut pas consommer ce produit. On a, avec des collègues, fait un livre là-dessus qui s'appelle « Cannabis et adolescence et famille ». Je n'ai aucun état d'âme là-dessus. À l'inverse, la menace pénale, d'une sanction pénale et la pénalisation de l'usage ne sert absolument à rien sur ce sujet-là. Voilà. Donc je pense qu'on devrait travailler en tant qu'adulte pour renforcer les interdits éducatifs, pour aider un certain nombre de familles et de personnes à tenir cette ligne. Et ensuite, on est sur un produit où il n'est pas scandaleux, comme d'autres comportements, de dire il y a un âge où c'est prématuré, il y a un âge où, si l'État te garantit la qualité du produit et te permette d'avoir une consommation qui ne soit pas risquée pour ta santé ou pas trop risquée, pourquoi pas ?
Je vais vous demander quel âge, hein ?
Vous savez bien, les études le disent, vous avez reçu mon collègue Amine Benyamina, c'est la maturation du cerveau, c'est 25 ans à peu près, voilà, donc on peut gagner une année, gagner deux années, bon, voilà. Vous savez bien, les âges, à chaque fois, c'est, on arrondit, si on cède à 23, 24 ans, c'est pas dramatique, si on tient jusqu'à 27, 28 ans, pourquoi pas, voilà.
Oui, mais alors, là, disons que c'est, ce sont des âges qui sont en décalage avec la consommation effective de ces produits.
Encore une fois, ce n'est pas depuis la nuit des temps. Le cannabis existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas depuis la nuit des temps qu'il est consommé à la fin des années collège et au début des années lycée.
Vous dites donc que c'est une substance nocive.
Je dis que c'est une substance nocive quand elle est commencée trop tôt et je dis qu'il y a des tas d'exemples de produits ou de comportements que l'on peut faire accéder à l'âge où il n'a pas ces problèmes-là.
Alors, Jean-Pierre Coutron, la question aussi, c'est de savoir, alors, bien entendu, on peut aussi avoir des adolescents, de jeunes adultes qui ne consomment ni drogue, ni alcool, et puis on a d'autres qui vont consommer différents types de produits, et là, la question, ce serait plutôt la nocivité relative du cannabis. Est-ce une substance qui est plus ou moins nocive que l'alcool? Et puis aussi, et ça il faut en parler, il y a aujourd'hui une grande innovation en matière de drogue, avec un bouleversement complet du marché, puisque c'est un marché. Alors tout d'abord, sur le premier point, s'il faut orienter la consommation.
Mais c'est important le premier point, parce qu'on va avoir le même débat dans quelques jours avec des études probablement sur le vapotage. C'est-à-dire que pense-t-on que la génération d'adolescents qu'on a aujourd'hui serait la seule qui n'aurait aucun comportement un peu dangereux et un peu de transgression? C'est une vraie question, voilà. Ensuite, effectivement, vous avez une problématique qui est légitime, qui est si une transgression est moins dangereuse qu'une autre, si un comportement est moins dangereux qu'un autre, pourquoi ne pas aller de ce côté-là? Alors là, encore une fois, je me méfie parce que le mot danger ne veut rien dire. Si on regarde la toxicité, c'est-à-dire la destruction de tel ou tel organe ou cellule du cerveau, on aura un classement. Si on regarde la dépendance, on aura un autre classement.
Donnez-nous ce classement, ça nous intéresse. Que,
par exemple, le tabac est beaucoup plus addictogène, rend beaucoup plus dépendant que beaucoup d'autres drogues. Mais en termes de effet psychique, il est beaucoup plus faible. Mais en termes de toxicité cancer, il est beaucoup plus fort.
L'alcool
est un des produits qui est le plus problématique parce qu'il a une toxicité forte, il a un taux de dépendance fort et il a des effets psychotropes forts. Donc un des paradoxes de notre société, c'est qu'on est beaucoup trop tolérant sur l'alcool et probablement beaucoup trop et maladroitement sévère sur le cannabis.
Mais alors, lorsque vous parlez par exemple du vapotage, puisque le vapotage, c'est un moyen qui est utilisé précisément pour en finir avec la nicotine, ou plus exactement avec la cigarette, puisque il y a de la nicotine dans les substances qu'on vapote, est-ce que ça n'est pas une bonne solution par exemple ?
Moi, je pense que c'est une bonne solution. Je pense en plus dans le vapotage, certains jeunes ne vont pas commencer avec de la nicotine. Ils vont vapoter juste les liquides. Ils vont s'amuser à nous provoquer avec les nuages. Certains savent faire des formes extraordinaires ou jouent avec le nuage de vapeur. Et l'idée de n'avoir aucune consommation chez des adolescents nous amènerait à des modèles de société dont je suis pas sûr qu'on aurait envie d'y vivre.
D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris si la nicotine en soi était mauvaise.
Il y a un certain nombre d'éléments qui sembleraient dire qu'elle n'est pas forcément mauvaise. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé à en consommer, on a du mal à s'en passer.
Bon, mais il y a beaucoup de substances dont vous avez du mal à vous passer.
Le conseil quand même que je donnerais à un adolescent, c'est de ne pas commencer avec la nicotine, puisque c'est pas la peine de se rajouter un objet de dépendance. Mais effectivement, faut pas avoir de drame par rapport à ça. Le problème du cannabis à l'adolescence, encore une fois, c'est plutôt ce qu'il va empêcher de finir en termes d'éducation. Et ça, on n'aime pas trop en parler, y compris moi-même, parce que comme c'est pas randomisable en double aveugle.
Randomisable.
Voilà, par étude comparée.
Randomisable.
Non, vous voyez, c'est le
je voulais une définition du terme, non, Jean-Pierre Coutu.
Voilà, hein, c'est le, on tire en groupe au hasard, on en met un par rapport à ça, on en met 50 d'un côté, 50 de l'autre, on les fait cheminer et on dit, en comparant, regardez, celui-ci a eu tel ou tel problème. Cette estompage d'une partie de ce qui est le moment où on se confronte à son statut d'adulte, voilà, et ne devrait pas nous amener à la diabolisation qui est portée sur le cannabis. On ne devrait pas pénaliser à ce point-là, mais ne devrait pas, de l'autre côté, faire comme si n'importe quel adolescent pouvait fumer sans qu'il y ait des conséquences sur la construction de sa personnalité.
Y a-t-il des psychotropes qui soient inoffensifs ?
À ce sens-là, non. À ce sens-là, non. Voilà, parce que le psychotrope, vous l'utilisez quand vous êtes adolescent pour gérer autrement votre douleur ou vos chagrins, votre tristesse. Vous l'utilisez pour gérer autrement votre plaisir, lever vos inhibitions. Vous l'utilisez pour doper vos performances. Et donc, il n'a peut-être pas d'autres critères de dangerosité, mais il a toujours ce risque qui est de vous faire passer à côté d'une expérience. Après, vous pouvez l'utiliser très ponctuellement, et alors là, ça pose pas problème.
Mais alors, si on sort de la question de l'adolescence, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui prennent des drogues, est-ce que là, on se retrouve face à d'autres problèmes lorsqu'on a affaire à des cerveaux qui sont déjà formés, et donc sans souci de voir...
Écoutez, le paradoxe, c'est qu'un certain nombre d'études ont montré que passé 25 ans, donc toujours la fameuse limite un peu arbitraire, mais qui est significative, si on élimine le problème de la combustion, pour les raisons cancérigènes de la combustion, la consommation du cannabis est vraiment loin d'être la plus problématique. Et dès lors qu'on ne conduirait
si
pas...
Si c'est en sous forme de gâteau, il n'y a pas de problème.
Vous savez, c'est un autre problème, c'est qu'avec le gâteau, l'effet arrive un peu décalé, il faut savoir à quel moment on va reprendre la voiture ou faire autre chose.
Mais ça, de toute façon, il y a toujours le problème avec la voiture.
Voilà, mais sérieusement, effectivement, la consommation de cannabis chez un adulte, s'il élimine la combustion, n'a pas de problème de...
Mais alors, les autres pays, Jean-Pierre Coutron, parce qu'il y a beaucoup de pays où la consommation du cannabis est autorisée, légale, tolérée, il y a différentes gradations. Est-ce que ce sont des pays qui se sont dit, de toute façon, la consommation de cannabis est tellement répandue que ça devient absurde de faire comme si on pouvait l'interdire, ou bien ils ont tranché en se disant que c'était une nocivité relative?
Il y a d'autres pays qui sont beaucoup moins idéologiques et beaucoup plus pragmatiques. Donc ils se sont dit, pour nous, pour eux, le but, c'est pas que les gens ne consomment pas du cannabis, c'est que les adolescents ne consomment pas trop tôt et trop précocement. Donc ils ont mis le paquet sur cette catégorie. Ils se sont dit, si on a besoin du cannabis médical, pourquoi empêcher les personnes d'accéder à des formes médicales, à des préparations médicales leur permettant d'utiliser le cannabis? Donc ils ont, au lieu de traiter dans un espèce de fantasme global le produit cannabis, ils ont regardé les différents publics et ils ont mis un certain nombre de moyens et de politiques adaptés à ces différents publics. Et c'est ce qui est intéressant dans le mouvement qui est en train de se passer dans un certain nombre d'autres pays. On sort d'une approche un peu mystique, le cannabis est dangereux, point, et on va vers tel usage, pourquoi pas, tel usage, on va continuer d'essayer de faire autrement, tel usage, laissons faire.
Le cannabis thérapeutique, pour vous, c'est une réalité ?
Bien sûr, c'est une réalité, bien sûr. Il y a une époque, chaque fois qu'on faisait une émission type celle-ci, le plus émouvant, c'était les gens qui avaient appelé au standard et en disant « Moi, j'en ai marre d'être obligé d'aller sur le marché parallèle, acheter telle ou telle quantité de cannabis pour telle personne de ma famille qui a une sclérose en plaques, un truc, un machin. » C'était radical. Le simple fait d'avoir laissé ces personnes pendant des années et de les laisser encore aujourd'hui dans l'illégalité est un vrai scandale de santé publique.
Bien sûr, mais est-ce qu'on aurait pu leur proposer autre chose qui leur fasse autant d'effets avec moins de nocivité,
eh bien,
Jean-Pierre Coutron?
Si ces personnes, depuis des années, vont vers ce produit, c'est que ce qu'on leur propose et ce qu'on leur proposait et ce qu'on a à leur proposer ne répondait pas, pour elles en particulier. Donc, la diversification des réponses, c'est une logique de base. Il y a des personnes pour lesquelles on a besoin de ces préparations. C'est pas à nous de dire qu'elles pourraient faire autrement.
Alors, parlons maintenant de la diversification des drogues, parce que l'une des choses les plus notables aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de drogues, des drogues de plus en plus aisées à trouver, parce qu'on les achète sur Internet, et donc la prohibition, déjà jadis, elle pouvait passer pour un leurre, mais alors aujourd'hui, disons que son efficacité est plus que restreinte. Quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles drogues, Jean-Pierre Coutron ?
On a du mal à les cerner, mais effectivement, vous soulevez le lien entre les drogues et les cultures et la culture. Voilà. Hein. Les drogues, c'est pas juste des substances, c'est des substances vers lesquelles on va à un moment donné, dans un contexte donné, dans une culture donnée. On est dans une culture très addictogène. On aime ressentir fort, on aime aller vite, on aime les sensations. Et du coup, on va vers des produits qui nous apportent ça. Alors, il y a les drogues historiques, légales, l'alcool notamment. Dont l'accessibilité est un vrai problème et un vrai scandale de santé publique. Et puis, il y a des nouvelles drogues. Alors, dans les nouvelles drogues, il y a deux grandes séries. Une qui fait hurler, c'est un débat, mais l'OMS vient de se prononcer, ce seraient les écrans. Une partie disent, est-ce que c'est des drogues ou pas? On ne sait pas, mais une partie des jeunes se déplace vers ces comportements au moment de l'adolescence pour gérer une partie des difficultés qu'ils y avaient.
Oui, c'est même l'une des explications qui a été invoquée en Angleterre, par exemple, pour la diminution de la consommation d'alcool chez
les
jeunes.
C'est le même François Beck, que vous pourriez inviter, qui a longtemps dirigé l'OFDT, suit cette piste depuis un certain nombre d'années en disant le retard d'entrée, qui est une bonne chose en termes de santé, dans les usages d'alcool et de tabac, ne serait-il pas dû aussi en partie à la place que prennent les écrans? Donc il y a ça de l'autre côté. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les nouvelles drogues, qui sont des drogues de synthèse, donc fabriquées par des petits chimistes, distribuées un peu plus par Internet, y compris des substituts, entre guillemets, artificiels du cannabis, et qui jouent sur le côté, il faut que ce soit clean, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit fonctionnel. Donc, à tort ou à raison, parce que parfois, là aussi, il y a un peu du pipeau par le vendeur, mais on vous vend un effet particulier, on vous vend une performance particulière, on vous vend un ressenti particulier, et notamment pour tout un tas de jeunes qui sont dans une culture festive et qui cherchent à différencier dans la soirée les sensations qu'ils vont avoir, on voit ce type de pratique se mettre en place.
Et alors ça, c'est dangereux pour vous, Jean-Pierre Coutron ?
Pareil, c'est dangereux parce que ce sont des gens jeunes et qu'on les laisse aux mains d'un marché parallèle. Il y a un certain nombre de pays, comme la Nouvelle-Zélande, des pays un peu nouveaux, qui ont des politiques très novatrices sur le vapotage et sur ces nouvelles drogues, qui disent après tout, plutôt que d'essayer d'arrêter quelque chose qu'on n'arrêtera pas, encadrons-le en termes de santé publique. Donc demandant à l'industriel de nous dire qu'est-ce qu'il met dedans, comment il le fabrique, et notre rôle d'État est de le garantir et de dire ne le prenez pas en dessous de tel âge, pourquoi pas au-dessus de tel âge, ainsi de suite.
Mais vous, en tant que psychologue et en tant qu'addictologue, est-ce que vous considérez qu'il y a une nocivité particulière de ces drogues chimiques, ou est-ce que l'on peut avoir une drogue qui serait pure, je veux dire pure d'effets secondaires?
Alors, c'est le Graal, la drogue pure d'effet secondaire, c'est le Graal. Il y a depuis la nuit des temps, les petits chimistes essayent de fabriquer la drogue qui n'aurait pas d'effet secondaire. Je pense qu'on n'y arrivera pas, pour deux raisons. Les premières, c'est les effets secondaires pharmacologiques, et certains sont vraiment dramatiques. Le deuxième, encore une fois, c'est la place de substitut que ça prend au niveau de l'éducation. Et là, c'est une réflexion philosophique. Depuis la nuit des temps, il nous est conseillé d'apprendre d'abord à se servir et à se développer soi-même avant de substituer nos compétences par des objets.
Mais oubliez les jeunes. Oubliez les jeunes, le regard moral qu'on pose sur les drogues, finalement, lorsqu'il est question d'adultes.
Vous savez, on a travaillé il y a deux ans, on a fait un colloque, s'appelait L'homme augmenté, où on avait invité Alain Damasio, parce que c'est une vraie, voilà, c'est une vraie réflexion. Est-ce qu'on pourra avoir des substances de plus en plus performantes qui augmenteront nos performances sans mettre en danger notre humanité? C'est une question chimiquement pour l'instant qui n'a pas de réponse, mais c'est sur quoi travaille un certain nombre de personnes. Il y a ce qu'on appelle les nootropes, hein, et un certain nombre de personnes... Ce sont des produits ou ce sont des techniques qui nous permettraient d'augmenter nos performances sans avoir les effets secondaires pharmacologiques négatifs.
Jean-Pierre Coutron, vous êtes psychologue, clinicien, addictologue. On se retrouve dans quelques instants. Vous serez rejoint par Pierre-Yves Chauffard. Il est professeur à l'École d'économie de Paris et il est co-auteur du rapport Cannabis, comment reprendre le contrôle. 8h sur France Culture. 8h21 sur France Culture. Le Conseil d'analyse a fait sensation la semaine dernière en publiant une note appelant ouvertement à légaliser l'usage récréatif du cannabis. Que faudrait-il espérer ou craindre d'une telle réforme en France? Pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Pierre Coutron, psychologue clinicien, addictologue et porte-parole de la Fédération Addiction, et vient de nous rejoindre Pierre-Yves Geoffard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et vous êtes l'un des co-auteurs du rapport Cannabis, comment reprendre le contrôle, un rapport qui fait beaucoup causer. Et j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi consistent vos préconisations et pourquoi ce libéralisme en matière de drogue, je veux dire.
Mais d'abord, ce qu'on a fait dans ce rapport, c'est essentiellement de regarder ce qui s'est fait ailleurs. Et c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pays ou des États qui se sont engagés dans une démarche de légalisation du produit, donc du cannabis à usage récréatif. Et l'ensemble, tous ces pays partagent les mêmes objectifs, mais les partagent à différents degrés. C'est-à-dire que les objectifs de la légalisation, c'est quoi ? C'est un, mieux protéger les mineurs ou les jeunes, mieux restreindre l'accès aux produits par les plus jeunes, parce qu'on sait, et ça Jean-Pierre Coutron l'a rappelé tout à l'heure, le produit est nocif quand il est consommé aux âges trop précoces. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est réduire la criminalité, c'est lutter contre les crimes organisés. Et le troisième objectif et un quatrième objectif induit, c'est la création d'une filière économique durable avec des emplois à la clé et avec des recettes fiscales, des cotisations sociales, enfin c'est la création de tout un secteur économique. Donc tous les pays qui légalisent partagent ces trois objectifs, mais à des degrés différents.
Alors qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour la France ?
Alors nous d'abord ce qu'on préconise, c'est il faut hiérarchiser ces différents objectifs. Vous voyez que un État qui a comme principal objectif les recettes fiscales va adopter des modalités de légalisation différentes d'un État pour qui la priorité des priorités, c'est la protection de la jeunesse. Nous ce qu'on recommande, c'est simplement dans la ligne du plan de lutte contre les conduites addictives, c'est de privilégier la protection des plus jeunes, des plus fragiles et la lutte contre les trafics, qui sont deux objectifs qui vont de pair.
Comment feriez-vous ?
Alors, la légalisation est un outil parce que le marché, de toute façon, il existe.
Mais alors, si vous légalisez, parce que aujourd'hui, c'est une chose qui est faite aux États-Unis, par exemple. Alors, on trouve un certain nombre de sites marchands qui vendent de l'herbe, comme on pourrait vendre du café sur Internet, comme une autre substance. Vous ne protégez pas du tout cette frange de 18 à 25 ans dont Jean-Pierre Coutron, à côté de vous, disait que celle-ci devait s'interdire de consommer de l'herbe ou du cannabis.
Oui, mais c'est la prohibition ne protège pas non plus du tout cette population, puisque aujourd'hui en France, il faut quand même rappeler que la France est dans une situation assez paradoxale ou particulière, en tout cas notamment en Europe, c'est-à-dire que la répression y est au moins sur le papier l'une des plus sévères qui soit, et le taux de consommation, notamment chez les jeunes, y est le plus élevé. Donc on voit bien que on se doute que ça marche pas très bien.
Jean-Pierre Coutron.
Oui, vous disiez 18-25 ans, je dirais que c'est même 15-25 ans le problème.
Ah oui,
en France.
Le
problème en France, c'est que l'entrée se fait beaucoup trop tôt.
Bien sûr, mais aux États-Unis, pour acheter de l'herbe, il faut bien entendu être majeur.
Oui, absolument.
Et on ne pénalise pas forcément. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que voilà, ça permet de sortir du débat un peu global où on ne sait pas de quoi on parle et de dire voilà, il y a trois objectifs, lesquels vous choisiriez ? Si on choisit en premier la protection des mineurs, voilà le système de régulation qu'on vous propose avec cet objectif en premier. Le rapport évoque que d'autres États ont choisi la lutte contre la criminalité parce que chez eux, c'était ce qui était le plus complexe, et que d'autres se sont laissés tenter par des enjeux de faire le plus de bénéfices, entre guillemets, on pourrait dire.
Tout voilà. À fait.
Donc déjà, cette première idée de dire quel objectif on prend, protection des mineurs, et ensuite on déploie. Alors, ce que je trouve intéressant dans le rapport, c'est peut-être là-dessus qu'il faut aller, c'est on ne dépense plus d'argent inutilement à faire le mur de la prohibition que tout le monde contourne. C'est ça le problème.
Oui, parce que ça coûte très cher.
Mais oui, et on réinvestit l'argent à l'endroit où il pourrait être utile.
Alors, il faut pas...
Pierre-Yves Geoffard.
Oui, il faut pas non plus opposer légalisation et répression. C'est-à-dire que dans toute démarche de légalisation, il faut continuer à lutter contre les trafics. Il faut continuer à lutter contre les têtes de réseaux, etc. Parce que dans n'importe quelle démarche de légalisation, les réseaux criminels, les réseaux mafieux, eux, ne vont pas se laisser faire. Ils vont chercher d'autres manières de développer d'autres marchés. Donc, mais en revanche, un point qui est important, c'est l'interdiction de vente aux mineurs. Aujourd'hui, en France, elle est on va dire, imparfaitement respectée pour ce qui est de l'accès à l'alcool et au tabac. En revanche, ce qu'on pense, c'est que si le cannabis récréatif est diffusé dans des boutiques spécialisées, eh bien, ça donne un outil supplémentaire pour interdire la vente aux mineurs, puisqu'un mineur n'aura rien à faire dans une telle boutique. Donc, il suffit de vérifier l'accès des mineurs à ces boutiques. Il y a une interdiction aux mineurs qui est tout à fait respectée, c'est l'interdiction des casinos. Elle est bien respectée parce que ce sont des lieux dédiés au jeu. Et donc, c'est très facile de faire respecter cette interdiction.
Et alors, lorsque vous observez, en tant qu'économiste, le marché de la vente de drogue, il y a énormément d'articles qui sont consacrés par des économistes aux ventes de drogue. Tout d'abord, comment se fait la fixation des prix lorsqu'on a affaire à un marché qui est un marché, évidemment, souterrain?
Bah, écoutez, le prix se fixe comme d'abord le marché existe et donc c'est le prix de marché, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande avec les déterminants des coûts du côté de l'offre, dont les coûts de répression. On sait que si la répression devient plus forte, le prix d'équilibre, le prix sur le marché va augmenter parce que ça entraîne des coûts supplémentaires pour les trafiquants. On sait que s'il y a une offre très abondante, le prix va baisser parce que s'il y a une offre abondante, eh bien le prix baisse, comme sur tout autre marché.
Mais alors, il y a différentes études, notamment alors une étude là, c'était plus un sociologue, Sudhir Venkatesh, qui s'était introduit dans des réseaux de vente de drogue aux États-Unis et qui avait montré qu'il y avait évidemment, ça n'est pas un scoop, beaucoup d'argent qui était brassé dans ces trafics de drogue, mais que celui-ci était très inégalement réparti à l'intérieur du réseau de trafiquants.
Oui, ça on le sait depuis, et c'est pas propre au cannabis, c'est vrai que pour l'ensemble des drogues illégales, on a très souvent un réseau de distribution qui est très concentré tout en haut de la chaîne et qui est très concurrentiel plus on descend près des vendeurs de détail ou des vendeurs de rue. Donc ça veut dire que tous les profits remontent, ils ne restent pas dans les quartiers, ils ne restent pas dans les zones de trafic, ils vont remonter, et ils restent même pas d'ailleurs souvent dans le pays qui est dans le pays où ont lieu les ventes.
Ah oui, alors les chiffres que donnait Venkatesh, un veilleur, donc vraiment ceux qui étaient au plus bas dans la hiérarchie de la vente de drogue étaient rémunérés approximativement la même somme que s'il travaillait dans un fast-food, mais évidemment, il prenait des risques qui étaient bien plus élevés que pour vendre des hamburgers dans un fast-food. Jean-Pierre Coutron, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, un témoignage. Moi, je suis membre de la Société française de santé publique. J'ai travaillé à Mantes-la-Jolie. J'ai vu ce quartier, j'ai vu une partie de ces quartiers, effectivement, être gêné par le déploiement de l'économie parallèle et du marché noir. Alors, ce qui est problématique, c'est que ça ne rapporte pas à ces quartiers, mais ça les déséquilibre et ça les met encore plus en difficulté. Aujourd'hui, l'association où j'ai commencé de travailler, Information Prévention et Toxicomanie, elle vient de licencier l'ensemble des personnes qui bossaient sur le quartier du Val-Fouré. Les médiatrices, les personnes qui faisaient ce travail pour accompagner les familles au sens des déterminants de santé, on les licencie. C'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de payer ce type d'acteurs. On paye des policiers, des magistrats, dont quand même l'efficacité au total est assez limitée. Voilà, là, sur un micro-exemple comme ça, on voit l'échec absolu de cette politique de prohibition. Nous n'avons plus les moyens d'accompagner les familles dans leur rôle éducatif et de protection des enfants. Nous déployons des moyens de police qui sont de toute façon débordés sur ces trucs-là. Et en plus, le bénéfice, contrairement à des mythologies, ne vient pas alimenter le quartier, repart à l'extérieur. Donc on perd sur tous les tableaux. Donc déployer des filières qui seraient raccrochées. Alors il y a le fameux exemple au niveau du cannabis thérapeutique de ce qui voudrait être fait en Creuse, mais sur un certain nombre d'expériences à l'étranger qu'on a étudiées, on a permis à ces personnes, dès lors qu'elles n'avaient pas commis de crimes associés, de reprendre place dans une économie plus contrôlée. Voilà. Le problème, c'est est-ce que l'État sera garant de la régulation? Pour moi, la vraie question, elle est là.
Pierre-Yves Geoffard.
Je crois que c'est tout à fait vrai. Quand on dit souvent que faut faire attention à la légalisation parce que on a c'est tout un produit, un marché, certes souterrain, qui fait vivre beaucoup de quartiers. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas une économie qui fait vivre ces quartiers. Ça fait vivoter un certain nombre d'individus, un certain nombre de familles. Ça, c'est vrai. Mais les désagréments qui sont connus par les populations, que ce soit les habitants, mais aussi les commerces, les entreprises. Quelle est l'entreprise ou le commerce qui va s'installer dans une zone de trafic? Aucun. C'est devenu impossible. Donc c'est une économie qui pénalise extrêmement fortement ces quartiers. Et c'est pas possible de se dire que on va accepter de continuer comme ça sous prétexte que on se dit on va maintenir une espèce d'équilibre précaire comme ça. On sait que c'est pas terrible, mais on a peur de bouger. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas continuer à accepter de laisser ces quartiers en déshérence en maintenant une prohibition dont on sait qu'elle est délétère.
Mais alors, il y a quand même quelque chose de compliqué à comprendre, Pierre-Yves Geoffard, c'est que dans les chiffres donnés suite à la légalisation du cannabis, on voit qu'on assisterait à une diminution des prix, ça c'est quelque chose d'assez logique, mais une diminution assez faible. On ne comprend pas du coup pourquoi dans un marché qui est entre les mains de mafias diverses et variées, avec une forme de prohibition qui devrait normalement tirer les prix vers le haut, si on légalise, pourquoi n'assiste-t-on pas à une diminution beaucoup plus forte des prix ?
Alors, je vais vous faire une réponse typique d'économiste. Ça dépend. Et il y a des pays, il y a des États où on voit une très forte diminution du prix. Le Colorado, notamment, a fait le choix d'un mode de régulation très concurrentiel, très libéral, sans aucun contrôle des prix.
C'est-à-dire que n'importe qui peut vendre de la drogue dans le Colorado.
Non,
cannabis.
Non. Ça, dans tous les cas, il faut avoir des licences, il faut être agréé par l'État. Les filières légales du cannabis sont des filières qui sont créatrices d'emplois, de quelques emplois agricoles ou de transformation, et de beaucoup d'emplois juridiques. Pour vérifier que tel ou tel élément de la chaîne de distribution vérifie bien toutes les contraintes. C'est d'ailleurs un des problèmes en Californie parce qu'ils n'arrivent pas à recruter les juristes spécialisés. Et du coup, la filière légale a la peine à se développer. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour revenir sur la question du prix, au Colorado, le prix s'est effondré. Le prix a baissé de plus de 60%. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la note pour le Conseil d'analyse économique avec Emmanuel Auriol, nous recommandons un monopole de production, de distribution, qui permet justement de contrôler le prix et de faire en sorte que le prix ne baisse pas trop par rapport au prix. Ça redonne un instrument supplémentaire de régulation de la demande. C'est-à-dire qu'on veut que le prix soit suffisamment bas pour être très concurrentiel avec les trafics et pour éliminer assez rapidement les trafics. Maintenant, on veut pas non plus que le prix soit trop bas pour encourager une consommation débridée.
Alors, à cela, on peut vous rétorquer qu'un certain nombre de produits ont leur vente largement contrôlée, par exemple le tabac, avec l'existence d'un marché gris, voire d'un marché parallèle, qui est très important aujourd'hui, Pierre-Yves Geoffard, parce que l'une des nouveautés quand même, c'est le fait que l'on trouve aujourd'hui du cannabis sur Internet en deux clics.
Alors le cannabis sur Internet, c'est pas tout à fait trouvable en deux clics, c'est un peu plus compliqué que ça, sauf à aller sur des réseaux très très parallèles.
Et je peux vous faire la démonstration.
Il est pas du tout sûr que vous serez livré si vous commandez sur ce site.
Effectivement, là, il faudrait aller jusqu'au bout. On va demander un budget à Radio France pour faire le test
à vos auditeurs de faire ce test. C'est pas tout à fait, c'est pas malgré tout aussi accessible que ça en France. Donc
je parlais de l'existence d'un marché gris et d'un marché parallèle.
Dans tous les cas, lorsqu'on taxe de manière très importante un produit, ce qui est le cas du tabac en France, c'est une bonne chose. Il y a un moment où l'écart entre le coût d'acquisition du produit et ce que les consommateurs sont prêts à payer est très important. Donc on peut y aller, on peut taxer. Malgré tout, au bout d'un moment, si vous taxez beaucoup, eh bien les marchés criminels, lui, va redevenir rentable, notamment si on fait baisser la répression sur les trafics. Donc il faut, on sait qu'on peut pas aller trop haut en termes de taxes, sinon ça va réintroduire, ça va à nouveau laisser de la place pour un marché criminel, pour un marché illicite qui retrouve des parts de marché.
Et Jean-Pierre Coutron, le fait que les drogues soient chères, est-ce que ça constitue un frein à leur consommation. Est-ce que, en tant qu'addictologue, vous observez une importance de la barrière prix?
Bien sûr, c'est tout un des enjeux des débats avec les économistes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des expertises croisées. On se bat au niveau de l'alcool pour avoir un prix minimum et pour avoir une augmentation des taxes. On s'est battu au niveau du tabac pour une augmentation du prix dont on a vu qu'il a une certaine efficacité. Après, les économistes nous rappellent que si on monte trop haut, on va avantager le marché parallèle. Donc c'est ce qui est intéressant, encore une fois, je crois qu'il faudrait inviter les personnes à lire cette note parce que elle permet pour une fois de poser les enjeux un peu de d'effet contre effet, effectivement, de dire si vous créez un marché légal, vous allez pouvoir utiliser tous ces outils pour faire la régulation. Voilà. Ça ne solutionnera pas à 100%, mais ce sera mieux que ce qui se passe aujourd'hui où pour le coup, on régule pas grand-chose.
Mais alors, si on considère, et c'est votre cas, que la consommation de drogue est préjudiciable à la santé et qu'il vaudrait mieux donc s'abstenir. Pourquoi, par exemple, ne tire-t-on pas des enseignements du fait que certaines drogues ont cessé d'être consommées de manière massive? Par exemple, j'ai cru comprendre que l'héroïne était en profonde désaffection. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'héroïne, Jean-Pierre Coutron?
C'est compliqué, mais les drogues, c'est comme d'autres produits, ça suit un certain nombre d'évolutions culturelles, sociétales. Voilà, l'héroïne est une drogue qui, à une époque, a eu un attrait. Elle peut revenir là, non pas sous forme d'héroïne, mais avec l'épidémie des opiacés qu'on a en Amérique du Nord, sous forme de médicaments. Hein, ça ne se prend plus en injectable, ainsi de suite. Donc il faut se méfier de ces phénomènes d'apparition, de disparition. Ces produits, je pense que la difficulté, c'est de faire entendre qu'à la fois, on ne peut pas en faire l'éloge de ces produits, mais qu'il faut arrêter de penser qu'on empêchera tout le monde de les consommer. Et que le mieux est de hiérarchiser les risques et de hiérarchiser les dangers, et donc de hiérarchiser les outils de contrôle que l'on peut avoir. C'est ça l'objectif d'une bonne politique au niveau des addictions.
Mais alors justement, Pierre-Yves Geoffard, est-ce qu'on ne peut pas accuser les économistes d'être finalement dans une conception purement mercantile du monde, oubliant qu'il y a là derrière des enjeux à la fois de santé publique et aussi peut-être d'addictions diverses et variées?
Mais je crois que c'est pas à cause des économistes que le marché existe. Le marché existe indépendamment des économistes, des sociologues, des juristes et de tout ce que vous voulez. Donc la question, c'est simplement comment essayer de faire en sorte, compte tenu des comportements individuels, compte tenu des coûts de production, comment faire en sorte que ce produit soit régulé au mieux. On n'est absolument pas du tout dans l'idée que c'est un marché qui doit, c'est un produit qui doit faire l'objet d'une absence de régulation. Bien au contraire. C'est-à-dire que là, par exemple, prenez l'alcool, qui est l'une des drogues de consommation la plus massive qui soit en France. Il y a trois drogues de consommation très importantes, c'est le cannabis, l'alcool et le tabac. Sur l'alcool, vous avez des outils fiscaux qui permettent de dire, on va moins taxer la bière, on va moins taxer le vin qui ont des effets moins nocifs pour la santé, et puis on va taxer davantage les alcools forts. On pourrait tout à fait, dans un cadre régulé, adopter le même principe pour le cannabis, c'est-à-dire que des cannabis faiblement dosés en THC, qui sont plutôt de l'ordre de la détente, pourraient être moins taxés que des produits très très dosés en THC, dont on sait qu'ils se développent, ils sont très présents dans certains États aux États-Unis, ils sont très présents aussi sur les marchés illégaux. Ceux-là sont très nocifs, peuvent être très nocifs assez rapidement pour la santé. Ben ceux-là, on peut les taxer davantage. Vous voyez que vous avez un outil supplémentaire qui est un outil qui peut être encore une fois au service d'une politique de santé publique.
Alors d'après vos calculs, ça pourrait créer évidemment des emplois, 80 000 emplois, dites-vous, par an.
Les créations d'emplois, vous savez, là, on est vraiment sur des raisonnements sous la base d'hypothèses et de conclusions. On peut se contenter simplement d'extrapoler par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc, une des questions, c'est quelle serait la consommation totale, le montant total de la production nécessaire en France pour satisfaire une demande légale. Bon, là, on peut avoir une idée. On pense que c'est entre 500 et 700 tonnes. Ce sont probablement des hypothèses assez basses, d'ailleurs. L'impact de la légalisation là-dessus, on arrive à des chiffres. Et combien de gens faudrait-il pour produire ça? On regarde dans les autres États, notamment aux États-Unis, parce que c'est là qu'on a un peu de recul, combien de personnes ont été employés dans le secteur. Toutes ces personnes, comme on le disait tout à l'heure, ont une licence, donc c'est assez facile de les compter. Uh-huh. Et on a également chiffres officiels de vente, donc on fait des ratios et on dit, si on applique les mêmes ratios en France, on arrive à, effectivement, pour les hypothèses qu'on a retenues sur le volume de vente, à entre 50 et 80 000 emplois.
Bon, mais alors, déduction faite des emplois que vous allez supprimer, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui dépendent du trafic de drogue.
Une manière de dire les choses, c'est que ce sont des emplois qui sont transformés. Effectivement, ce sont des emplois qui existent. Certains de ces emplois existent aujourd'hui dans la distribution, dans le commerce et
Est-ce qu'on est capable de quantifier aujourd'hui le nombre de personnes qui, en France, vivent directement du trafic de drogue?
C'est très difficile. C'est notoirement difficile. Comme on l'a dit, ces personnes en vivent, mais on va dire souvent en vivotent. L'essentiel.
Pas tous, parce qu'on a vu que les têtes de réseau qui ont beaucoup d'argent, il y a la théorie du ruissellement.
Pour l'essentiel, pour l'immense majorité des personnes qui sont impliquées dans la vente et dans le trafic des stupéfiants en France, pour l'immense majorité, les profits et les revenus sont très très faibles. Il y a quelques grossistes ou quelques têtes de réseau qui, eux, ont des revenus très élevés et d'ailleurs qui envoient un effet signal extrêmement néfaste dans les quartiers, parce qu'on voit il y a un grand frère, un cousin qui a progressé au sein du réseau et qui va effectivement déployer sa richesse fraîchement acquise, et ça envoie un effet signal épouvantable sur les plus jeunes dans le quartier.
Et il y a une autre question en matière de drogue qui va bientôt se poser, Jean-Pierre Coutron, qui se pose d'ailleurs déjà aujourd'hui aux États-Unis de manière massive, c'est la crise des opiacés, avec un risque en France. Quelques mots en conclusion pour nous dire là comment cette crise, qui est une crise légale, parce que ce sont des médicaments, peut aujourd'hui venir en France.
Oui, alors d'ailleurs, il y a le même organisme qui appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament qui s'occupe des deux. Le risque en France est un peu moindre parce que le système de contrôle est mieux établi et que la publicité sur les drogues légales est interdite. Le problème étant aujourd'hui que l'on dispose de médicaments opiacés de plus en plus performants pour traiter la douleur chronique, un certain nombre de douleurs aiguës, somatiques, et le problème étant de ne pas utiliser ces drogues pour traiter d'autres type de douleur, de la souffrance sociale ou de la douleur psychique. Parce que si vous les utilisez à ce moment-là, vous retombez dans on a parlé en première partie de matinée, vous créez une addiction parce que vous ne traitez pas la cause, vous traitez le ressenti et la personne va avoir en permanence besoin de traiter son ressenti.
Mais le détournement d'usage, il est immédiat ou...
Le détournement d'usage, il résulte d'une mauvaise prescription, d'une mauvaise présentation du médicament, et ensuite, aux États-Unis, il y a eu un deuxième problème qui pourrait se passer en France, c'est que quand on a voulu refermer la porte qu'on avait ouvert en redevenant plus rigoureux sur la prescription, les personnes sont allées sur le marché parallèle acheter effectivement un certain nombre d'opiacés qui étaient disponibles sur ce marché parallèle, et ça donne les catastrophes qu'on a aujourd'hui.
Pierre-Yves Geoffard, en conclusion, donc votre rapport, on l'a entendu, il est favorable à une légalisation contrôlée. Au début, Emmanuel Macron avait dit qu'il était ouvert à différentes position, et puis semble-t-il, l'ouverture s'est un peu refermée.
Vous savez, notre principal but, c'était de nourrir le débat. Ce débat va exister, ce débat existe, et on pense qu'il gagne à être alimenté par des éléments factuels, par l'analyse de la réalité et une analyse critique de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé ailleurs dans le monde. Voilà. Maintenant, le débat va s'engager. Je crois qu'il y a notamment un certain nombre de parlementaires qui sont très motivés pour ne pas se taire sur ces questions et pour faire avancer les réflexions. On a jamais imaginer que le rapport allait immédiatement déclencher une réaction du gouvernement ou du président de la République disant, écoutez, je l'ai lu, franchement, c'est super, on y va. Je crois pas que c'est pas...
Mais
ça.
Vous avez parlé avec des politiques, est-ce qu'en coulisses, ils sont, comment dirais-je, plus ouverts qu'en public?
Oui, bien sûr, vous savez, mais ce qui est dans les coulisses doit rester dans les coulisses. Et les positions... C'est un sujet délicat. Il faut pas le faire n'importe comment. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays où ça a été fait un petit peu à la hussarde, comme notamment en Uruguay, et ça n'a pas marché. Je crois qu'il faut prendre le temps de nourrir, d'installer le débat, de comprendre les positions, les craintes que peuvent avoir certains par rapport à une évolution, qui est une évolution assez forte, et de s'assurer que l'ensemble des acteurs, que l'ensemble des intervenants voient cette évolution comme une opportunité et pas seulement comme une menace, mais les possibilités sont là. Il n'est pas possible, quand vous regardez la réalité de la situation actuelle, de dire on ne peut pas faire mieux que ça, c'est juste un désastre.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Coutron ? Vous avez parlé avec des politiques, vous aussi. Est-ce que leur attitude en privé diffère de discours qui sont généralement plutôt favorables à la prohibition en public ?
Écoutez, il y a un petit truc qui circule sur Twitter qui est assez drôle, c'est-à-dire que quand vous interrogez des personnalités célèbres, tous ceux de la politique n'ont jamais consommer de drogue. Voilà, ils ont une espèce de pureté
des gens
absolue.
Voilà.
Ils n'ont jamais consommé de drogue. Et ensuite,
c'est
il y a un deuxième problème, c'est que ils sont pour le changement quand ils ne sont plus en responsabilité. C'est-à-dire les anciens présidents, les anciens ministres de l'intérieur, les anciens alimentent les think tanks une fois qu'ils ont quitté leur place, qui militent pour la dépénalisation. C'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Voilà, il faut juste l'étape d'après, que ce soit ceux qui sont en fonction qui le fassent.
Pierre-Yves Geoffard.
Après, ce que vous voyez aussi, c'est que lorsque vous avez différents interlocuteurs, les interlocuteurs, les hommes politiques les plus près du terrain, et les responsables les plus près du terrain, eux, sont les plus opposés au maintien du statu quo.
Tout
pourquoi? Parce que ils constatent. Donc il y a une exigence, il y a une nécessité de pragmatisme. Plus on est près du terrain, et le changement va venir de là. Il va venir des collectivités territoriales, il va venir des conseils régionaux, il va venir des municipalités qui se disent. Ben non, il y a le Conseil régional d'Île-de-France va sortir dans quelques semaines un rapport qui a été piloté par le maire d'une commune de Seine-Saint-Denis et qui est pas qui est un maire UDI, vous voyez, et qui va préconiser la légalisation.
Merci à tous les deux, Jean-Pierre Coutron, psychologue clinicien addictologue, et Pierre-Yves Geoffard, professeur à l'école d'économie de Paris et co-auteur du rapport Cannabis, comment reprendre le contrôle.